Mouvement des droits civiques et ségrégation raciale aux États-Unis durant les années 1960. Bonjour, nous sommes trois lycéennes de Renaudot et on s'intéresse au mouvement des droits civiques et à la ségrégation raciale aux États-Unis durant les années 1960. La ségrégation raciale est l'héritage esclavagiste de la guerre de sécession durant les années 1860. En effet, la libération des esclaves a provoqué une guerre civile entre les États du Nord et les États du Sud. Cela a donc engendré une fracture entre les Américains noirs et les Américains blancs. Le recensement de 1960 indiqua que pour la première fois, une majorité de noirs vivaient en dehors du Sud profond. Des ghettos se formèrent dans les grandes villes et devinrent le lieu de grandes émeutes raciales, à commencer par le quartier de Watts à Los Angeles en 1965. À cette époque, un dicton célèbre semblait représenter la politique sociétale qui était « séparés mais égaux ». Pourtant, les Noirs et les Blancs étaient loin d'être égaux, comme nous pourrons le voir avec Perrine qui nous parlera des 9 étudiants de l'Arkansas dans un instant. Puis nous verrons avec Emma le mouvement des droits civiques porté par le symbole de Martin Luther King. Donc Perrine, que pouvez-vous nous dire concernant la séparation des Noirs et des Blancs à cette époque, ainsi que sur les 9 étudiants de l'Arkansas ?
Effectivement Zoé, les événements de Little Rock marquent un tournant dans la lutte pour le mouvement des droits civiques pour tous. En effet, le 2 septembre 1957, 9 lycéens noirs américains ne parviennent pas à accéder à leur lycée, situé dans la ville de Little Rock, capitale de l'État de l'Arkansas aux États-Unis. Ces 6 filles et ces 3 garçons étaient autorisés pour la première fois à faire leur rentrée dans un lycée, initialement réservé aux élèves blancs. Cependant, plus d'un millier de lycéens ségrégationnistes blancs leur bloquent l'accès au lycée. La police de Little Rock intervient pour les laisser pénétrer dans l'établissement, mais des violences éclatent et les 9 lycéens sont obligés d'être évacués. Il faudra attendre l'intervention du président Eisenhower et de la garde nationale le 24 septembre pour qu'ils puissent étudier au lycée de Little Rock. Ces événements sont couverts par les médias dans le monde entier, et notamment par la journaliste locale Daisy Bates, qui est la porte-parole des lycéens et qui écrit de nombreux articles de presse. Grâce à ces articles, les 9 élèves sont connus dans le monde entier pour leur histoire et pour leur combat pour l'éducation. Cette couverture médiatique permet au mouvement pour les droits civiques de prendre de plus en plus d'ampleur dans une société où les blancs et les noirs n'ont pas le même accès à la presse.
Merci pour toutes ces informations très intéressantes. Maintenant, Emma, le mouvement des droits civiques a porté comme leader Martin Luther King, qui est devenu un symbole du mouvement et qui possède aujourd'hui un jour férié de commémoration à son nom aux États-Unis. Pouvez-vous nous raconter son parcours au sein du mouvement ?
Alors en effet, Zoé, il s'avère que Martin Luther King Jr. était et restera un symbole de cette lutte contre les violences et les discriminations aux États-Unis. Il est né le 15 janvier 1929 à Atlanta et est mort assassiné le 4 avril 1968 à Memphis. C'était un pasteur baptiste et militant non-violent afro-américain pour le mouvement des droits civiques des Noirs américains aux États-Unis. Il milite pour la paix et contre la pauvreté. Nous pouvons alors nous demander ce qu'a concrètement fait Martin Luther King pour devenir ce symbole non seulement national mais aussi mondial. Effectivement, en 1960, il créait le mouvement des sit-ins. C'est littéralement l'acte de s'asseoir à l'intérieur d'un local. Elle désigne l'initiative des jeunes noirs à partir du mois de février 1960 qui ont bravé l'arrestation et le mauvais traitement de la police locale en s'asseyant dans des lieux de restauration où les lois sur la ségrégation leur interdisaient de prendre place aux côtés des blancs dans les États du Sud. Comme Martin Luther King disait, il nous faut considérer le besoin d'un stimulant non-violent qui crée dans la société la tension nécessaire pour que les hommes s'élèvent au-dessus des profondes ténèbres du préjugé et du racisme, vers les majestueuses altitudes de la compréhension et de la fraternité. Et c'est donc à partir de ce principe pacifiste que Martin Luther King va mener des manifestations non-violentes à travers tout le pays, sous le modèle de Gandhi en Inde. Pourtant, certaines autorités religieuses blanches demandent à King de mettre fin aux manifestations. C'est le cas à Birmingham en avril 1963. Et malgré le pacifisme dont la majorité des manifestants font preuve, les autorités et opposants à ces mouvements ne réagissent pas de la même manière. Comme en mai 1963, où la police de Birmingham utilise des lances à incendie et des chiens contre la croisade des enfants, dans laquelle plus de 1000 jeunes sont arrêtés. Et quelques jours plus tard, une bombe est placée au motel dans lequel King séjournait et au domicile de son frère.
Durant plus de 10 ans, Martin Luther King pratique les manifestations et les mouvements non violents avec une conviction venant de son principe « Nous avons douloureusement appris que la liberté n'est jamais accordée de bon gré par l'oppresseur. Elle doit être exigée par l'opprimé. » Cette force de conviction lui a valu le prix Nobel de la paix à Oslo le 10 décembre 1964 pour son dévouement dans le respect des droits civiques. Nous pouvons aujourd'hui suivre son exemple dans la marche vers l'égalité grâce aux traces écrites de ses idées dans ses livres ou articles de presse des années 60 et tout type d'archives. Martin Luther King continue d'inspirer cette lutte et celle de l'égalité à travers le monde.
Merci à vous, Emma. Pour finir, nous avons pu interviewer Mr. Newsom au téléphone, un Afro-Américain qui nous a parlé de son expérience sur les discriminations raciales aux États-Unis. Tout d'abord, quel est le ressenti des Afro-Américains à propos de la ségrégation des années 60 à aujourd'hui?
My father feels like it was a waste. It was a waste in some respects. Because Martin Luther King gave his life. Malcolm X gave his life. Many, many people gave their lives so that I could go to school and be a teacher or be whatever I wanted to be, okay? But the culture today, Rosa Parks refused to give up her seat on the bus. Today, black kids rushed to the back of the bus. Okay, we had Obama. But what good is Obama if the culture isn't intelligent enough to understand what Obama meant? My grandmother didn't have a chance to see him, you know. And in her lifetime, no way. No way. But people don't appreciate it today.
Quelle était et quelle est l'attitude des Blancs américains à propos de leur passé de colonisateurs?
I think it's two ways. I'm not white, but I think it's two things. First, you have white privilege. Okay? If you're white and you can go to, you have the money to go to college, not only white, but if you're white, you have the money to go to college, your parents are rich, you walk into a... You walk into a job and they see you as white and you get the job versus another person, why change it? You know what I mean? That's a privilege. But on the other hand, there are white people that say that's not fair. Just because I'm white, it's just a color that I didn't choose. So for those white people, they are more with the movement of more inclusive. And that's good. That's the way it should be.
Comment cette période de l'histoire est-elle enseignée à l'école?
It's better now. It's getting better. But when I was in school, and when my father was in school, it wasn't taught. The history of Black America wasn't taught so much. The education was slaves were brought from Africa. And they were savages, they didn't have any intelligence, they didn't have any culture, which was not true. These slaves, not just black, but the slaves had culture, they had intelligence, and they were brought, and they were stripped of that and given a religion, okay? And then they were sold, and their families were separated. So in terms of education, when I was in high school, it got better, but the story was always George Washington did a great job, Abraham Lincoln did a great job, he freed the slaves, but it doesn't talk about the struggle and why. But it's getting better.
Avez-vous une histoire familiale liée à l'esclavage?
So, my grandmother, my paternal grandmother, was basically my mom, okay? Because of issues with my mom, okay? But... she was born in 1916 in Mississippi, okay, during Jim Crow, okay. Her family was poor, dirt poor. She was smart, but she had to stop school at sixth grade. Can you imagine and work She had to work. Okay? She could read, she could write. Okay? But she was under Jim Crow. So there was nothing she could do to get out of that system but to leave Mississippi. So when her mother died in 1955, she said, I'm going to California. Because California was the vision, was the hope. There was racism in California, but not as much as in the American South. So a lot of people moved. You know, so my grandmother came and she was a house cleaner for white people in California. She raised 4 children, 3 grandchildren, me and one of them. But let me tell you this. When I was a child, I volunteered for the American Red Cross, which is la Croix Rouge en français. Okay. I volunteered. Okay. Now, for me, I went to school with everyone. For me, I went to school with blacks, whites, Chinese, everyone. Okay. Because when I was born in 1971, I'm old, and and the schools were integrated in California at that time. But the Red Cross had a history with my grandmother where they did not help black people. It was difficult. Now, the Red Cross is an organization to help everyone, right? So when I said I want to volunteer for the Red Cross, she said no, because they're racist. And I didn't understand. Because I'm like, but Grandma, they're here to help everyone. So she had to explain to me the history of, more of the history of racism.
Et pour finir, d'après vous, quels moyens pourraient être utilisés pour changer le sentiment raciste dans la société américaine?
Education for everyone. Education. If everyone had an equal shot to go to university, it would change. Because when you go to university, you think differently. Believe me, you develop the mind. But it also when you have that education, you have to encourage the young people to go to school so that they learn and can change and have the hard talks. Okay? My father will say, oh, I called the bank and the man didn't want to help me. He didn't want to help me because I'm black. And I have to tell him, Papa, Daddy, change the way you think. Maybe he had a bad day. And let that go. Why does he have to be a white guy? Why does he have to be a cracker or whatever, you know? Let it go. Build small steps. Really, education is the key.
Au final, il est vrai que nous pouvons admettre que même si de nombreux événements ou personnes noires ont agi pour défendre l'égalité entre les noirs et les blancs aux États-Unis, et même dans le monde entier, le monde est loin d'accorder une égalité parfaite. Encore de nombreuses personnes noires sont en danger à cause de la haine qui perdure et cette notion de race. Selon Mr. Newsom, l'apprentissage du respect et de l'égalité doit se faire dès le plus jeune âge, et passe donc forcément par l'éducation, car les enfants sont la génération à venir. Ou bien faut-il également éduquer les adultes au respect et à l'égalité ?